Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Il arrive, comme le dit clairement le chef Pierre Gagnaire, que la cuisine, ce ne soit pas que de la bouffe. C'est alors autre chose, une vision du monde, un rapport au vivant, un éveil des sens, une parenthèse enchantée. Le chef qui est avec nous ce midi est un poète culinaire. Alors on a eu envie de partir en voyage avec lui à travers le superbe livre qu'il publie et dans lequel il nous dévoile son univers. Les Bonnes Choses met donc les voiles vers Cancale, en Bretagne, où on vous emmène, si vous voulez bien nous suivre, au gré du vent et de la lune, à l'abri des flots. Ce sont deux menus de notre chef, découvrir une cuisine des plus raffinées, poétiques et sauvages, celle d'un chef qui a repris voilà près de 10 ans, en 2015, le restaurant mythique de son père, longtemps 3 étoiles au guide Michelin. Au Coquillage, c'est le nom du restaurant, il fait du repas une expérience sensorielle unique, il propose une cuisine pleine d'embrun, de goût marin, de saveurs florales, sauvage comme la côte bretonne et travaillée par la main de l'homme. Hugo Rollinger, bonjour.
Bonjour, merci.
C'est vous le chef du restaurant Le Coquillage qui est aujourd'hui 2 étoiles à Saint-Méloir-des-Ondes en Bretagne. Et à vos côtés se trouve Ryoko Sekiguchi, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes autrice culinaire, les auditeurs de France Culture vous connaissent bien. Vous êtes l'autrice d'un certain nombre d'ouvrages parus chez POL, mais c'est chez Bayard que paraît en réédition ces jours-ci. Les petites conférences Bayard, on les connaît. La terre est une marmite, c'est le nom de ce titre, le titre de ce livre que vous faites reparaître. Précisément, Ryoko Sekiguchi, quelle est votre relation avec la famille Rollinger, puisque c'est vous qui avez traduit en mots ce que vous a raconté Hugo Rollinger pour ce livre qui paraît aux éditions de la Crête,
Sur la Crête,
voyez, édition Sur la Crête, un livre qui est intitulé Correspondances au pluriel. Les correspondances commencent par vous, je pense. Donc Ryoko.
Oui, alors non, c'est une histoire d'amitié, de la même conviction. D'abord, j'ai connu donc son père Olivier. Je l'ai accompagné plusieurs fois comme interprète pour la tournée des conférences au Japon sur la conservation de la ressource halieutique. Ensuite, j'ai travaillé avec sa sœur Mathilde pour créer quelques épices.
Mathilde Rollinger ayant repris les épices Rollinger.
Et donc, le curry japonais. Et là, maintenant, avec Hugo, avec lequel donc, on a fait ce livre.
Et quel rôle avez-vous eu sur ce livre?
Alors,
on voit vos remarques en italique, des impressions, des commentaires, des sensations même que vous éprouvez en goûtant les plats de Hugo Rollinger.
Oui, alors c'est, je dirais plus, donc c'est un livre à plusieurs voix. Donc bon, bien sûr, la voix de Hugo, donc qui raconte son histoire, donc sur les plats, sur le liquide, son histoire avec la région. Et moi, je pensais toujours que qu'il manque dans le livre de cuisine la voix de ce qui mange et la sensation qu'un plat nous fait. Donc voilà, donc j'ai participé.
Vous voilà, êtes l'émotion, la voix de l'émotion.
Voilà, là, oui, c'est vrai.
Quand vous avez goûté les plats de Hugo Rollinger, c'est votre.
C'est vrai que c'était intéressant parce que c'est une remarque qui est arrivée un petit peu au début de la construction du livre et Ryoko m'a dit mais c'est vrai qu'il y a peu de livres en fait qui retranscrivent des émotions suite à la dégustation et en fait on aurait aimé finalement avoir ces sensations là d'une cuisine du début du siècle, d'une cuisine du milieu du siècle et on s'imagine des lecteurs qui ouvriront ce livre dans 20 ans, dans 50 ans. Et l'alimentation a sûrement complètement évolué. Le rapport à l'alimentation et l'expression aura évolué de tous ces cuisiniers quoi. Et d'avoir cette mémoire-là, c'est vrai que on s'est dit, ouais, c'est très intéressant.
C'est précieux.
C'est précieux, ouais. Et pour rebondir sur l'écriture de Ryoko, c'est vrai que quand j'ai eu l'énergie me dire, ça y est, je commence mon livre, parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un livre de cuisine, mais pas que de cuisine, faire un petit peu aussi le pas de côté au livre de cuisine. Et je connaissais l'écriture de Ryoko parce que je l'avais rencontrée au préalable et c'était la première personne suite à un repas un repas au coquillage qui avait réussi à mettre des mots sur sur ma sensibilité et mon rapport à la cuisine, en fait. Et en fait, je pouvais pas imaginer que ce soit quelqu'un d'autre que Ryoko. Donc c'est vrai que quand je l'ai appelé, je me suis décidé à écrire ce livre. Et je l'ai appelé sur la route en janvier en allant au restaurant sur un coup de tête. Je me suis dit, bon, allez, ça y est, maintenant, c'est le bon moment. T'es mûr, il faut y aller. Donc j'étais stressé de la réponse de Ryoko. Et j'espère qu'elle va accepter. Et c'est vrai que dans l'écriture de Ryoko, je suis cuisinier parce que j'ai une sensibilité aussi à exprimer. Mais je suis pas musicien, je suis pas écrivain, je suis pas peintre, mais si j'avais été écrivain, j'aurais aimé avoir la plume de Ryoko. Ouais.
Oh, c'est joli. Wow. Quel joli compliment. Pourquoi, donc c'est votre premier livre, on l'a bien compris, Hugo Rollinger. Pourquoi un livre? Pourquoi et pour qui?
Pourquoi et pour qui? C'est vrai que c'est la première question qu'on m'a demandé. Ah oui, t'écris un livre, et on m'a posé, bah, pourquoi, pour qui? Ouais, alors au tout début, c'était pas forcément évident d'y répondre. Et avec un petit peu de recul, je pense, dans un premier temps, que je l'ai fait aussi pour mes enfants, de laisser une trace de, ah bah oui, quand t'étais plus jeune, t'as pas forcément beaucoup vu ton papa, tes parents, parce que c'est un travail collectif avec Marine, aussi ma femme. Mais ils étaient emmenés dans une aventure et emmenés dans une cuisine. Et parce que la cuisine est éphémère, en fait. On fait un plat, on n'a plus envie de le voir, on l'enlève de la carte. Et puis, ça se trouve, ce plat-là ne réapparaîtra jamais, quoi. Donc, il y a cette notion de laisser une trace, laisser une mémoire. À la fois pour mes enfants et à la fois pour mes équipes, en fait. C'est que il y a des, voilà, on est pour faire ça, cette cuisine là ce qui est exprimé dans ce livre là et pas uniquement la cuisine mais aussi l'hospitalité, un art de recevoir. On est 80 et donc il y a certaines personnes qui sont là avec nous depuis 30 ans, qui accompagnaient mes parents avant, et il y a des, voilà, c'est des passages de vie aussi qui passent à nos côtés, et c'est laisser une trace pour ça, en fait. Parce qu'on ne sait pas de quoi est réservé demain, mais voilà, c'est laisser une mémoire, une trace. Ouais.
Alors, il y a une mémoire à laisser, donc on va de l'avant, mais il y a aussi peut-être quelque chose de l'ordre de là d'où on vient. Chez vous, Hugo Rollinger, c'est important parce que vous êtes, chez vous, la cuisine, c'est quand même une affaire de famille, hein, en étant le fils d'Olivier Rollinger. Alors, peut-être que vous êtes un peu fatigué qu'on vous le dise toujours. Maintenant, vous avez votre propre prénom. Mais c'est précisément ma question, parce que vous n'avez pas eu tout de suite, même si vous êtes tombé dans la marmite petit, vous n'avez pas eu tout de suite envie de cuisiner. Vous avez d'abord bourlingué, vous avez pris la mer, vous avez travaillé dans la marine marchande. Et vous êtes devenu cuisinier en changeant d'avis en 2014. Malgré tout, ça doit être difficile de reprendre les rênes quand on a un père 3 étoiles de cette réputation. La valise est peut-être lourde. Je ne sais pas si elle est lourde ou légère dans votre cas, mais la difficulté est sans doute de trouver son identité. Donc Olivier Rollinger, c'est un terroir breton et les épices du monde. Comment vous avez-vous trouvé votre façon de voir la cuisine, votre façon de faire la cuisine?
Bah c'est vrai que de passer derrière un père tel que le mien et aussi un couple, parce que voilà, c'est l'histoire d'un couple de mon père et ma mère qui ont créé ça, et de passer derrière un succès tel qu'ils ont eu. Et une réussite, c'est une pression, mais en même temps, moi j'ai grandi dans cet univers des maisons de Bricourt. Indirectement, j'avais l'impression d'en faire partie, donc je pouvais pas imaginer qu'un jour tout s'arrête. Donc je l'ai fait à la fois pour ça, mais je l'ai fait aussi par une profonde conviction d'une envie de cuisiner, de retransmettre une sensibilité, et puis l'acte de cuisiner qui n'était pas un acte anodin, parce que c'était un acte qui pouvait être militant, simplement en mettant en lumière la beauté d'un territoire et d'un endroit. Et quand j'ai compris ça, que la cuisine pouvait être ça aussi, parce que j'ai cet attachement pour la mer, j'ai cet attachement pour ce petit pays de Cancale, la baie du Mont-Saint-Michel et tout ça, et donc de faire ma part dans ça, à mon échelle, de la protection de cet élément qui est la mer, de sa protection qui est de cet environnement de Cancale, j'ai compris ça, donc je me suis dit, ce métier est incroyable. Mais de passer derrière un père, ouais, c'est pas évident, surtout que le sujet était tabou dans la famille, on n'en parlait pas. Donc c'est vrai que quand j'ai annoncé un retour d'embarquement, je savais que c'était mon dernier embarquement, j'avais embarqué au Cap-Vert et sur la côte africaine, et j'ai dit merveilleux embarquement, mais ce sera mon dernier. Et quand j'ai annoncé, c'est vrai que c'était un peu une douche froide pour mon père, il s'y attendait pas. Et parce qu'il sait l'implication que ça demandait, que c'est un engagement voilà, physique, moral, intellectuel. C'est une vie en soi, le métier de cuisinier. Et donc, il y a toujours la volonté de protéger ses enfants. Donc, c'est un peu le mettre dans la cage au lion quand même. Et donc, il y avait une pression de réussite que moi, je me mettais. Donc, j'avais pas trop le droit de me louper. Donc. Mais j'ai eu une chance, c'est que j'ai jamais cuisiné avec lui. Donc je me suis jamais retrouvé dans une cuisine avec mon père, avoir son regard sur lui que j'aurais eu du mal à supporter, que lui n'aurait pas supporté du sien. Et donc il m'a très vite dit, bah, très bien, déjà je te donne une quantité de livres à lire, parce que j'ai beaucoup appris dans les livres. Et il m'a dit, bah, fais tes erreurs, j'en ai tellement fait dans ma vie. Et il a eu l'intelligence de me les laisser faire en fait.
Vous avez tout changé? Où il y a des choses que vous continuez de faire, des plats que vous continuez de faire. Je crois qu'il y en a un, en tout cas, qui a la carte depuis 35 ans, c'est le homard au cacao, vin de Cérès et 3 piments.
Ah oui, alors effectivement, ouais, dans l'expression d'un cuisinier, en fait, avec papa, on a le même cadre créatif, en fait. On cuisine au même endroit, avec cette même vue, avec cette relation à la baie du Mont-Saint-Michel, cette relation au marais, cette relation à l'horizon, au lointain et tout ça, mais on ne cuisine pas à la même époque et on n'a pas les mêmes crayons, on n'a pas la même expression en fait.
Est-ce que vous avez la même, lui, Olivier Rollinger, on le sait, est un cuisinier engagé pour le bien manger pour tous et pour toutes. Il a fait un manifeste notamment pour une révolution délicieuse, il fait des conférences, il essaye de défendre l'éducation à l'alimentation, à l'école, enfin vraiment le bien manger pour tous et pour toutes, c'est très important pour lui. Est-ce que vous partagez cette engagement, Hugo Rollinger?
Bien évidemment, en fait, dans mon métier de cuisinier, en fait, on est cuisinier, mais on y a la notion de, on cuisine, mais on nourrit aussi. C'est-à-dire nourrir, on essaye de nourrir de la plus belle des façons et de la meilleure des façons les personnes qui viennent s'attabler chez nous, parce que l'acte de cuisinier est pas un acte anodin, et donc il y a une intimité qui va se créer parce que la personne qui va ingérer quelque chose que vous avez préparé de vos mains. Il y a une responsabilité que l'on ne doit en aucun cas trahir. Et ça, j'y apporte beaucoup d'importance.
C'est votre engagement. C'est votre engagement
et
au quotidien.
C'est mon engagement au quotidien. Et c'est ce qu'on essaye de transmettre aussi à une équipe, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une énergie qui va venir une énergie qui va venir de la terre, une énergie qui va venir de la mer, qui va être transmise par les producteurs qui vont venir nous livrer, par une équipe de cuisine, par une équipe de salle. Et voilà, c'est ce tissu de lien humain aussi qui va faire qu'on a ce tissu de lien humain, on en a profondément besoin, en fait.
Je vous pose cette question, Hugo Rollinger, aussi, parce que cette semaine, nous sommes le 20 octobre 2024, et cette semaine, l'Institut Montaigne, qui est un think tank libéral, a rendu un rapport sur les fractures alimentaires. Il dit l'inflation alimentaire a aggravé la précarité alimentaire en France. Plus que jamais, l'alimentation est devenue la variable d'ajustement dans le budget des ménages qui sont contraints de réduire leur consommation et d'opter parfois pour des produits de moindre qualité nutritionnelle. On sait qu'il y a un problème d'accès à la bonne alimentation. On en a parlé ici même le 22 septembre 2024. Les maladies causées par la malbouffe coûtent aujourd'hui plusieurs dizaines de milliards d'euros par an aux contribuables français. Et donc, l'Institut Montaigne formule des propositions pour y répondre. Nous sommes en ligne avec Marie Gérin-Jean, qui est la directrice de l'association Ernest, une association de solidarité. Bonjour à vous, Marie Gérin-Jean.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Merci à vous d'être avec nous. Parmi les suggestions, l'Institut Montaigne propose de taxer davantage les produits les plus néfastes, alors en gros c'est les plus sucrés, les plus gras, pour financer un chèque fruits et légumes de 30 euros par mois à destination de 4 millions de Français, les 4 millions les plus modestes. Et parmi d'autres recommandations, parce qu'il y a plusieurs recommandations, figure également l'exonération de TVA sur les achats de denrées alimentaires pour les associations d'aide alimentaire. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez d'un bon œil à l'association Ernest?
Complètement, parce que ça s'adresse à une problématique qui est celle de la malbouffe pour les personnes qui sont aussi vulnérables par ailleurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 75% de l'aide alimentaire est finance en réalité des crédits d'impôt pour la grande distribution. Et donc, c'est principalement des produits ultra transformés qu'il y a actuellement à la banque alimentaire et donc dans les colis alimentaires. Donc, cette question de la malbouffe lorsqu'on est pauvre est, à mon avis, très importante et répondrait de manière très intéressante à la problématique, notamment sur l'achat des associations d'aide alimentaire. Nous, on a la particularité de vouloir y répondre en étant focus sur le bien manger pour tous. Et en l'occurrence, nous, on achète tous nos produits. Donc, on serait très intéressé par cette exonération.
L'association Ernest, c'est une association donc de solidarité. Vous avez un dispositif, Marie Géringent, dans cette association, qui est le dispositif pour manger. Je crois que les chefs sont partie prenante.
Complètement. Ben justement, pour pouvoir acheter des denrées bio, locales et de bonne qualité, on a créé un système de financement qui nous permet de collecter sur chaque addition d'une vingtaine de restaurants à Paris quelques centimes. Et ces centimes additionnés forment des campagnes de levée de fonds de plus de 40 000 euros qui vont nous permettre de financer à la fois de l'achat de légumes qu'on va distribuer sous forme de colis alimentaires et de cuisiner des repas pour les personnes à la rue en maraude. Et ce pour manger, il a quelque chose d'intéressant, c'est que ça permet à tous les clients de participer avec quelques centimes, donc c'est 1$, et du restaurant étoilé comme Datil au restaurant avec beaucoup plus de couverts et beaucoup plus accessible comme Old Billy.
Et aujourd'hui, 20 octobre, c'est le premier anniversaire de votre restaurant solidaire, puisque vous avez aussi un restaurant solidaire depuis un an, avec une grande fête de soutien. On mettra toutes les informations sur notre site internet. Marie Géringent, merci. Et puis bon anniversaire merci au beaucoup. Restaurant solidaire d'Ernest. Hugo Rollinger, vous aussi, vous pourriez soutenir ce genre de dispositif, une association comme celle-ci? Est-ce qu'un chef étoilé, aujourd'hui, a aussi un rôle social? Et quel serait votre rôle social?
Alors, en fait, je trouve ça, déjà, je salue en fait ces personnes qui font tout ça et notamment qui participent à ça comme une chef comme Manon Fleury, effectivement, qui est très engagée socialement et si on peut avoir ce rôle, alors moi personnellement, sans avoir un discours très moralisateur et tout d'un coup le chef cuisinier étoilé, il peut révolutionner le monde ou il va faire des grands discours. Concrètement, moi je fais vivre à mon échelle localement 80 personnes qui travaillent à mes côtés. J'essaie qu'ils essayent d'avoir une vie épanouie, que ce soit financièrement et dans un épanouissement au travail. Et de faire vivre ce tissu de lien humain qui compose un restaurant et j'essaye de bien le faire et tout simplement et tout à l'heure je rebondis tout à l'heure en plus sur ce qu'on a dit c'est dans ma cuisine qu'on va venir manger et faire une expérience au coquillage je fais attention en fait bien sûr qu'on a des engagements éthiques et sociaux mais en aucun cas ça doit devenir un argument commercial parce qu'on nourrit et ça doit être une évidence de travailler avec des produits qui nous entourent, avec des personnes qui nous entourent. Et après, on peut commencer à faire une cuisine d'expression. Mais ce serait dommage d'utiliser ces belles valeurs éthiques en argument commercial.
Ryoko Sekiguchi.
Oui, alors à la fois, donc bien sûr, en tant que quand on fait un livre, par exemple, avec un chef ou bien avec quelqu'un d'autre, enfin sur la vie de quelqu'un d'autre, bien sûr, en tant que journaliste, on s'engage aussi. Enfin, on prend la responsabilité. Parfois, on ne sait pas comment cette personne, par exemple, ce cuisinier traite ses employés, ou bien quel rapport.
On peut avoir des mauvaises surprises parfois.
Oui, bien sûr. Et alors que là. Je peux dire que pendant un an déjà, donc on a pris un an, ce qui est assez exceptionnel pour préparer ce livre. Et donc j'étais tout le temps dans sa cuisine avec les équipes, j'ai mangé avec les équipes et donc je sais comment ça se passe dans la cuisine. Et aussi donc je pense qu'il y a un rôle enfin une fonction qu'un livre de cuisine peut jouer en dehors du fait que donc de transmettre les recettes tout court, c'est de transmettre la sensibilité. Tout à l'heure donc Ernest donc s'engageait pour par exemple apporter non seulement l'alimentation mais l'alimentation de bio par exemple avec les producteurs, une simple par exemple aubergine de 130 calories. Ce n'est pas seulement le chiffre 130 calories qu'on ingère. C'est aussi à travers cette aubergine, c'est la vie aussi de la terre, la vie de producteurs que qu'on essaie de sentir. Et je pense que quiconque qui lit ce livre, en tout cas ce qu'on a essayé de faire, c'est non seulement de transmettre le talent de cuisinier et le talent de son père, de la famille, mais aussi la terre qui est la Bretagne. J'ai jamais rencontré comme ça autant de producteurs, et aussi des gens qui font des céramiques avec la terre de Bretagne, et donc je pense des pêcheurs, c'est tous ces rencontres là qui sont dans pas sur les pages et dans le livre.
Il est 12h21 dans Les Bonnes Choses de France Culture. Nos invités aujourd'hui sont Hugo Rollinger et Ryoko Sekiguchi qui font paraître ensemble un magnifique livre Correspondance au pluriel. Il est largement temps, je crois, qu'on parle maintenant de votre cuisine, Hugo Rollinger, de l'assiette, de ce qu'on trouve dans l'assiette et de cet univers qui est le vôtre.
La cuisine de son père était tournée vers la mer et les produits locaux aussi, mais lui, il est peut-être encore plus ancré sur les produits qui l'entourent et puis peut-être plus marin encore que... Comme Hugo adore le kitesurf, le surf, la mer et tout ça. Donc il est encore peut-être moins épice, peut-être moins tourné vers l'extérieur et plus autour de lui.
Il a une très très grande connaissance des algues et donc il a le goût du fond de la mer. Il affine des algues, il a une cave à algues. Et en particulier, moi il me voyait cabosser la colonne vertébrale de ma cuisine, c'était le bouillon de volaille. Et lui dit, moi tu vois, je suis vraiment très très mal à l'aise de tuer 5 poules pour faire simplement ce bouillon. En plus, ce ne sont pas des poules de très très grande qualité, elles n'ont pas été élevées dans les bonnes conditions. Enfin, je suis pas bien du tout avec cette histoire-là. Et la radicalité, c'était de dire, j'arrête tout animal à sang chaud dans ma cuisine, donc plus du tout de viande. Et donc il a commencé à construire. Et moi, je veux dire que je suis bluffé avec un bouillon à la fois de légumes, d'algues et d'épices qui est absolument exceptionnel, qui va donner cette dimension umami, cette sapidité à l'ensemble de sa cuisine, qui est vraiment la colonne vertébrale.
Ici au citron confit, au milieu poivre des mers, pour terminer par sel, algues et sarrasin torréfié.
En l'occurrence, on parle de l'huître, hein, pour ce plat final. On a entendu Hugo Rollinger, puisqu'on disait que c'était une affaire de famille chez vous. On a entendu votre mère, Jane, et votre père, Olivier, parler de vous et de votre cuisine comme étant une cuisine plus radicale que celle de votre père. Le goût du fond de la mer, alors ça, j'ai trouvé ça très joli. Est-ce que vous l'avez d'abord, ce goût du fond de la mer, et ça se traduirait comment dans votre assiette?
Alors, c'est vrai que je suis fasciné par... déjà par l'élément liquide et évidemment par la mer et l'océan parce qu'on ne connaît que 10% des océans. Il y a cette notion, il y a cette fascination de l'inconnu, il y a cette fascination de tout est né, la vie est née des océans, la vie est née du liquide, nous sommes composés de liquide. Et il y a ce rapport même symbolique au liquide, et j'en parle dans le livre, qui a cette notion d'horizontalité dans le liquide, c'est-à-dire que vous allez verser un liquide, ce liquide va toujours chercher la notion d'horizontalité, quoi, d'horizontale, et c'est une horizontalité par rapport aux produits entre eux, par rapport à l'homme, à la nature, Et cette notion de qu'il n'y a pas un qu'il n'y a pas un produit qui est plus noble que l'autre, ou pour moi la feuille de chou est aussi noble que le homard. Et en fait, dans cet élément liquide, il y a ce goût du fond de la mer, ce goût des abysses, et comment la lumière va traverser la mer, comment la lumière va traverser une cuisine. Et le rapport à la notion de même que d'essayer d'atteindre une cuisine limpide, voire cristalline, cette notion de liquide, cette notion qui va nous faire du bien, cette notion de digestibilité, enfin, qui me parle, qui je compose ma cuisine avec ça.
Il y a même un intemporel, Hugo Rollinger, c'est votre plat initial, le premier que vous faites goûter à vos convives quand ils se mettent à votre table, l'eau de vie, qui est en fait une eau marine qui permet d'ouvrir le repas et de mettre toutes les papilles en éveil. Ryoko,
oui. Et puis je pense que cette horizontalité, ce n'est pas seulement, ça se passe pas seulement dans ces assiettes, mais aussi les humains ne sont pas au-dessus de nous, faut au-dessus. Il y a, enfin, dans ce sens-là, que c'est radical dans ces pensées. En fait, on sent qu'on fait partie de ce monde, de la mer, à mon même titre que les choux, au même titre que le homard.
Oui, mais c'est compliqué aujourd'hui quand on dit ça, parce que par exemple, Hugo Rollinger, vous avez supprimé la viande, on l'a entendu, hein, dans ce que disait votre père, mais vous gardez le poisson, on sait, et puis les algues, beaucoup, beaucoup, vous faites beaucoup d'algues, vous travaillez énormément avec les algues, vous dites même que c'est la colonne vertébrale, les algues chez vous. On sait, et en particulier en Bretagne, qu'aussi bien les algues que le poisson, aujourd'hui, c'est un peu compliqué du point de vue de la durabilité de la pollution. Donc, ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire vraiment travailler à chercher des producteurs, des pêcheurs qui sont...
Oui, bien sûr. En fait, et même par exemple, si on peut parler du menu au gré du vent et de la lune, en fait, il porte bien son nom parce que ce menu, il va évoluer en fonction de si on est en grande marée, en petite marée. Et ce qui va pas nous apporter les mêmes produits, les mêmes algues. Et en fait, comment dire, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire.
Et les algues, le poisson durable.
Ah oui, non, c'est mer, ça. Oui, par exemple, là, on vient de changer de carte là, vendredi, et j'ai plus de ligneur en fait. Donc, c'est-à-dire
vous avez plus, pardon,
de ligneur de pêcheurs qui vont travailler à la ligne. Et donc on va faire un menu qui va être en 14 temps, et on va manger aucun poisson, quoi. C'est-à-dire qu'on va manger un menu qui est profondément marin, mais qui va être composé uniquement de légumes, d'algues, d'épices et on se rend compte qu'on peut manger un menu qui est profondément marin sans manger de poisson forcément. En
fait. Ah, et ça c'est intéressant aussi chez vous et Ryoko Sekiguchi, on le voit bien, les correspondances qui donnent son titre au livre, c'est aussi des correspondances entre l'élément végétal et l'iode. Il y a beaucoup d'iode un peu partout dans les plats. Il y a d'ailleurs un plat qui s'appelle iode végétal, qui est une tartelette frite avec laitue de mer, bouquet cru et cerfeuil servi avec des œufs de lieu jaune. Là, il n'y en aura pas. Et purée de pommes de terre.
Et puis, oui, et puis aussi,
les fleurs, les épices.
Ah oui.
Et les coquillages.
On devient plus sensible aussi aux algues, parce que quand on parle des algues, on parle comme si, enfin, c'est une seule plante et le goût, mais il y a des algues et des algues.
Oui, il y a une variété immense d'algues. On peut se faire une petite idée de ce que c'est en allant ouvrir votre livre, qui est aussi un livre de recettes, hein, correspondance.
Et je finis juste le livre par un mot très simple, cuisiner c'est remercier. Donc cuisiner c'est remercier Dame Nature et remercier la vie tout simplement.
Et nous, c'est nous qui vous remercions aujourd'hui d'avoir fait le voyage jusqu'à nous pour nous parler de votre cuisine et de ce livre magnifique correspondant. 70 plats conçus autour de 36 recettes de liquides comme des bouillons d'algues, des huiles parfumées, des vinaigres infusés, le tout avec des épices évidemment de la maison Rollinger. Ce livre est disponible sur le site de la maison Rollinger, dans les 3 boutiques à Cancale, Saint-Malo et Paris, ainsi que chez les revendeurs agréés au prix de 65 €. Et il a les photographies aussi d'Anne-Claire Héros. Un grand merci Hugo Rollinger, un grand merci à vous Ryoko Sekiguchi. Les maisons de Bricourt ont un site également, à défaut de pouvoir y aller, on peut toujours rêver une expérience à déjeuner au coquillage, c'est 165 € et le soir c'est 225 €.
Toutes les informations sont à retrouver sur notre site franceculture.fr pour télécharger cette émission et toutes les autres. Rendez-vous sur l'application de Radio France avec Siam Boutata, la documentation Nathalie Salle, aujourd'hui à la réalisation, et François Saint-Jour à la prise de son. Nous vous souhaitons un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. France Culture, où il est 12h30 et c'est l'heure des informations. Tout de suite avec Julie Paco. Bonjour Julie.
Et bonjour Caroline, bonjour à tous. Des dizaines de femmes et d'enfants tués à Gaza dans une frappe israélienne la nuit dernière. L'armée israélienne a pris pour cible une zone résidentielle dans le nord de l'enclave. Au moins 73 personnes sont mortes d'après la défense civile de la bande de Gaza. Le choix ou non d'un avenir européen en Géorgie. À une semaine des élections législatives, les ONG appellent à une vaste mobilisation pro-européenne aujourd'hui dans la capitale de ce petit pays du Caucase, tiraillé entre les influences russes et occidentales. Pour en parler, notre invité est Ornike Gordadze, chercheur franco-géorgien et ancien ministre de la République de Géorgie. Y aura-t-il un recours au 49-3 sur le budget 2025? Le Premier ministre ne se l'interdit pas, alors que l'examen du budget débute demain dans l'hémicycle à l'Assemblée. Après son rejet hier soir en commission, coalition présidentielle et Rassemblement national ayant voté contre les apports de la gauche. L'armée israélienne dit poursuivre ses opérations dans la bande de Gaza ce matin et avoir éliminé des dizaines de terroristes 4 jours après la mort du chef du Hamas, Yahya Sinwar. L'objectif affiché par l'armée israélienne est d'empêcher la restauration des infrastructures du Hamas dans la zone, mais de nombreux civils sont pris au piège. D'après la défense civile de la bande de Gaza, au moins 73 personnes ont été tuées la nuit dernière lors d'une frappe sur une zone résidentielle de Beit Laya dans le nord du territoire palestinien. Alice Froussard.
Hier, dans la nuit, l'armée israélienne a pris pour cible un bloc résidentiel entier à l'ouest de Beit Laya au cours de l'une des nuits les plus meurtrières pour les habitants du nord de Gaza. 73 corps ont été transférés à la morgue de l'hôpital. La plupart des victimes sont des femmes et des enfants et les équipes de la protection civile tentent toujours de sortir des corps des décombres. Nasser Shakoura est un déplacé du nord, il n'en peut plus.
Nous voulons que ceux qui se contentent de nous regarder, de nous écouter, des yeux et des oreilles qui ne font rien, agissent face à ce qui se passe. Cela suffit.